prêts à recevoir la parole de Dieu. On va prendre notre Bible, on va faire une déclaration de la foi. Si vous n'avez pas une Bible avec vous, je vous invite à prendre la feuille que vous avez reçue à la porte. Et on va dire ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je serai jamais plus pareil. Pensez à ce que vous dites, ok? Mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, vous savez que ce matin, nous allons voir des choses dans la parole de Dieu qui vont nous aider à saisir notre destinée. En fait, le titre du message, c'est « Bâtissons notre rêve ». Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des rêves, des choses que vous avez rêvées depuis peut-être longtemps? Alors, je pense qu'on a tous des rêves. Il y a des rêves des fois qui viennent de notre cœur, il y a des rêves qui viennent de Dieu. Et il y a des rêves qui viennent de trop de pizza trop tard dans la soirée aussi. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut voir dans la parole de Dieu que Dieu, il nous donne des choses. Il place dans le cœur des hommes et femmes les visions et les désirs. Et si on suit les principes de la parole de Dieu, on est capable de réaliser ses rêves. Et ça, c'est vraiment le but aujourd'hui. On veut voir dans la parole de Dieu les principes qui vont nous aider à réaliser les rêves que Dieu a placés dans notre cœur. On a vu les photos du voyage qu'on vient de faire à Syracuse, à New York. Encore un bon groupe de personnes qui sont allées. Et vraiment, le but du voyage, c'est pas d'aller et voir une belle église et rester émerveillé et dire, waouh, c'est beau, je veux déménager ici. C'est pas ça. Le but, c'est de voir ce que Dieu fait et de réaliser que Dieu ne fait exception de personne. Que Dieu ne change pas de caractère ni de nature, que les promesses de Dieu ne sont pas annulées à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de lien. Il est Dieu ici, il est Dieu là-bas, il est Dieu en Afrique, il est Dieu en Chine, il est Dieu pour toute éternité. Amen. Et nous sommes son peuple. Et Dieu place les choses dans notre cœur. Et je sais que Dieu a mis vraiment une vision dans notre cœur pour cette Église. Et je sais qu'il a mis une vision dans votre cœur pour votre vie. Peut-être vous ne l'avez pas encore vu, vous ne l'avez pas encore réalisé, vous n'avez pas encore même eu un aperçu de c'est quoi le plan de Dieu pour votre vie. Mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Dieu a un plan, son plan est magnifique. Et si nous mettons ces principes en pratique, nous allons voir la réalisation de tout ce que Dieu a projeté. Amen. Mais pour commencer, j'aimerais lire un passage que nous connaissons assez bien. Et c'est en Genèse chapitre 11. Et nous allons voir, premièrement, la capacité que l'homme a reçue lors de la création pour créer et pour réaliser des choses. On va voir que chaque homme et chaque femme ici sur la planète Terre, chaque être humain, est né avec une capacité de rêver et de réaliser. Tout le monde dit rêver et réaliser. Et c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. En Genèse chapitre 11, on voit que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shikneah et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons !» Faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons bâtissons. Tout le monde dit, allons bâtissons. Allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langage. On dit un seul peuple une même langage. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien, tout le monde dit rien. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Dans la version Darby, c'est marqué rien qui peut les empêcher de faire tout ce qu'ils ont pensé. Savez-vous que Dieu nous a créés avec une capacité de penser à une chose, de rêver à une chose, et puis de réaliser la chose. Et voilà le problème. Le problème, c'est qu'ici, on a un peuple qui est rebelle, un peuple qui est révolté, un peuple qui essaie de faire leur propre vie, de leur propre gré, sans consulter Dieu, et en fait, ils sont en train de résister le plan de Dieu. Faisons-nous un nom. Est-ce qu'ils ont dit, glorifions le nom de Dieu? Pas du tout. Dieu n'est pas mentionné dans ce passage. En fait, ils ont dit, on va faire une ville, on va construire une tour, comme ça, nous ne serons pas dispersés partout sur la terre. Mais remarquez, n'est-ce pas vrai que quand Dieu a créé l'homme, et quand Dieu a créé la femme, et il a donné le commandement de multiplier et de faire quoi? Remplissez la terre. Le plan de Dieu, c'était que le peuple soit multiplié et aussi distribué aussi. Dieu veut que la terre soit remplie. Mais eux autres, ils avaient leur idée. Ils avaient leur volonté. Ils voulaient faire les choses selon leur gré, selon leur désir et leur plan, leur projet. Donc, et voici qu'est-ce que je trouve intéressant. Une personne, même sans consulter Dieu, sans demander l'aide de Dieu, il a quand même la capacité de penser, rêver et réaliser. Dieu avait dit, parce qu'ils sont un, parce qu'ils parlent le même langage, et parce qu'ils ont commencé à entreprendre ce projet, il faut que je fasse une intervention. Il faut que je fasse de quoi? Pour les arrêter, parce que si je ne les arrête pas, peu importe qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils projettent, peu importe l'idée ou le rêve qu'ils ont, ils vont être capables de le faire. Rien ne va pouvoir les empêcher. Rien. N'est-ce pas intéressant? Pensez à qu'est-ce qu'un homme peut faire sans Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé dans son image. Il y a quand même, les hommes qui sont séparés d'avec Dieu, les hommes pécheurs, ils ont quand même des capacités humaines qui sont au-delà de qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. Ils disent qu'on utilise un dixième de notre cerveau, de notre intelligence. Imaginez si un homme pourrait utiliser 90% ou 100%. Imaginez. Tu as juste à voir qu'est-ce que les hommes ont été capables de faire à date. On a déjà mis les personnes sur la Lune, n'est-ce pas? On a déjà fait des choses que les hommes ont dit, c'est impossible. Vous savez qu'il y avait un homme qui a dit un jour, c'était malheureusement, même il faut avouer, c'était un pasteur d'une église qui a dit que les hommes ne vont jamais voler. OK? Mais il y a juste un problème. Il avait deux fils qui s'appelaient Orville et Wilbur Wright. Et ces deux fils ont pris une décision un jour que les hommes vont voler avec le pouvoir d'un moteur. Et ils ont fait un avion, ils ont eu un rêve, et ils ont réalisé le rêve, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils ont créé dans l'image de Dieu. Dieu est créateur. Amen. Mais on voit qu'un homme qui prend une décision de réaliser un projet et qui se met ensemble avec les autres hommes et qui partage une vision commune, ces hommes deviennent pas arrêtables dans le naturel, à moins que Dieu fasse une intervention surnaturelle. Et c'est ça qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a confondu la langage. Donc, au lieu de parler une seule langage, donc tout le monde commençait c'est le tour de Babel. Et c'était la confusion. Et les gens avaient besoin, ils étaient forcés de se disperser, surtout sur la terre. Mais voici qu'est-ce que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est que c'est encore la même chose aujourd'hui. Les hommes ont encore le désir de faire leur projet, de faire leurs choses. Il y a même, c'est intéressant, je parlais avec le pasteur hier à Syracuse et il mentionnait certaines choses à propos d'une certaine ville qui est en construction actuellement dans le monde, dans les Émirats arabes. Combien de fois vous avez entendu parler de la ville de Dubaï? Dubaï, comment est-ce qu'on dit ça? Dubaï. C'est quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce qu'ils font là. Et c'est assez récent. C'est un lieu qui était désert. Vraiment rien dans le désert. Et tout d'un coup, hein, dans les années 70, surtout, les choses ont commencé à bouger un peu plus. Mais juste dans les derniers 10 ans, ils ont fait des choses incroyables. Et il y a même des personnes qui croient. Je ne suis pas là pour faire un message sur l'eschatologie, mais il y en a qui pensent que peut-être même que cette ville va être la Babylone qui va être détruite en Apocalypse 18. Okay? Il y en a qui pensent qu'il y a tellement des parallèles. Je ne suis pas là pour parler de ça, mais qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est que ces personnes, ils ont quand même une vision, un rêve. Là, vous voyez, ça c'est le tour de Burj Dubai. Ça, c'est vraiment juste un artiste qui a dessiné cela. Et c'est actuellement la tour la plus haute au monde. Ça, c'est juste un dessin. Mais vous voyez, la ville, ils ont eu une vision. On va construire une ville. Ils ont dit qu'ils veulent construire une ville-pays qui va être le 8e merveille du monde. Et ils font des choses extraordinaires. Les hôtels les plus luxueux qui existent au monde sont là actuellement. OK? Donc, regarde, ça c'est le tour en construction, 118 mètres, 162 étages. Ça vous fait penser un peu au tour de Babel, n'est-ce pas? On va. Et ils n'ont même pas annoncé la hauteur finale de la tour avant 2009, parce que, avant, je pense que c'était 2009 quand ils ont terminé. Parce qu'il y avait d'autres personnes en concurrence qui voulaient avoir le bâtiment le plus haut au monde. Donc, ils ont gardé ça secret et finalement, c'est rendu à 118 mètres, 162 étages. Mais ça, c'est quelqu'un qui avait une rêve, une vision et ils ont pu réaliser cela au milieu du désert. Mais c'est pas juste ça. Regarde, il y a d'autres choses qu'ils ont faites. Ça, c'est un endroit qui s'appelle The World, qui est juste à côté de Dubaï et c'est les îles que les hommes ont créé dans l'eau, et ce sont des îles énormes, ok, mais vous voyez, ça, c'est comme une carte mondiale. Donc, on peut aller là et on peut acheter un pays. On peut acheter sa propre île et c'est du luxe c'est incroyable qu'est-ce que l'argent et le montant d'argent que ça coûte pour acheter une de ces îles, mais c'est des hommes et des personnes les plus riches au monde se rendent à ces endroits. Ils achètent leur propre île et ils vont avoir toutes sortes de choses et vivent dans le débauche souvent. Hein? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de prostitution et il y a même, en fait, un peu qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes dans d'autres confessions, les musulmans même, qui vont aller, ils vont pouvoir se marier. Puis, comme ça, ils peuvent avoir des relations avec des prostituées, mais puis ils se divorcent après, donc c'est pas un péché. Hein? Donc, mais il y a d'autres que. Mais je ne parle pas contre une religion musulmane, je ne suis pas d'accord du tout, mais je ne parle pas contre les personnes, je les aime. Mais il y a d'autres qui sont juste les païens. Ben, le mariage, ça ne vaut rien, donc on va juste faire ce qu'on veut. Vous me suivez? Mais ça, c'est un peu l'atmosphère qui des choses qui se passent. Mais regarde, et c'était, mais juste en revenant en arrière, il y avait quelqu'un qui avait une vision de cela. Il a une idée. Moi, je vais créer dans l'océan le monde et je vais vendre le monde. Et là, il a réalisé. C'est quelque chose, hein? Mais puis, on continue, quelqu'un d'autre a une vision, une piste de ski intérieure. On veut faire du ski dans le désert. OK? Donc, voilà, on voit juste un dessin. C'était un rêve, c'était une vision, c'est une idée. Mais regarde, ça c'est, je ne sais pas si vous pouvez voir, ça c'est de l'extérieur, il fait moins 1 à l'intérieur, alors qu'il fait 40 degrés à l'extérieur. Et ça peut aller jusqu'à 50 degrés à Dubaï. C'est chaud, c'est dans le désert. Mais quelqu'un a une vision, et maintenant c'est réalité. Regarde, on continue. On fait du ski alpin dans le désert, oui. Ça c'est une vraie photo. Ils font du ski dans le désert. 40 degrés dehors, ils font du ski. Il y a des tonnes et des tonnes de neige à l'intérieur. Mais pourquoi est-ce que je montre tout cela? Parce que, de un, ça me fait penser tellement à la tour de Babel. On va construire une ville. Ça va être le 8e merveille au monde. Puis, on va construire une tour qui est la plus haute au monde. Et ils l'ont fait. Et ça, c'est des personnes qui l'ont fait sans avoir un mandat de Dieu, mais ils ont fait parce qu'ils avaient le désir dans leur cœur, ils ont eu le vouloir, et parce qu'ils ont eu le vouloir, ils ont eu le pouvoir. Mais est-ce que vous êtes d'accord qu'un homme n'a pas construit tous ces bâtiments, cette tour et cette ville et ces îles qu'on vient de voir? C'est pas un homme qui a fait cela. Un homme peut-être a eu une vision. J'ai pas mes notes ici, mais j'ai le nom de la personne qui a eu la vision pour the world, ces îles. OK? Il a eu cette vision. Mais laisse-moi vous assurer que c'est pas lui qui a construit ces îles tout seul. Il a partagé la vision. Et avec la vision, il y avait une provision. Tout le monde dit une provision. C'était une provision de quoi? Il avait besoin des ressources, des personnes qui pourraient dire « Oui, bonne idée, on va le faire. » Ou « Oui, tu peux m'engager, tu peux me payer des millions et je vais le faire pour toi. » Donc, mais ils se sont mis ensemble pour réaliser un projet énorme et incroyable. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même ici, un autre exemple, on peut faire du ski dans le désert. Ça, c'est des choses un peu débiles, on pourrait presque dire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais si on continue et on regarde un autre verset de la parole de Dieu ce matin, on a lu Genèse 11 et on a vu que, dans un sens, c'était négatif, c'était pas une bonne chose que les hommes ont pris une décision de se révolter contre Dieu et de se faire un nom. Notre but dans la vie, c'est pas de se faire un nom. Notre but, c'est de faire un nom pour Dieu. Amen. En fait, pas de faire un nom, mais d'annoncer son nom, de prêcher son nom, de proclamer son nom, d'élever son nom, n'est-ce pas? Dans une vie personnelle, dans une église, notre but, c'est pas de faire un nom pour la vie comblée. Nous voulons faire un nom ou annoncer le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Moi, une chose que je sais, on donne les noms aux églises locales. On a la vie comblée, on a Nouvelle Vie, on a l'église de Pentecôte, on a l'église baptiste de la foi, et on donne les noms aux églises locales. Comme ça, on peut s'identifier. Comme je m'appelle Ken Taylor, j'ai un nom de famille. Est-ce que vous avez un nom de famille? C'est bien pratique, n'est-ce pas? Mais savez-vous quoi? Vous n'aurez pas votre nom de famille au ciel. Vous n'allez pas garder le même nom de famille au ciel. Et savez-vous quoi? La vie comblée ne va pas exister au ciel non plus. Le centre de formation biblique, Raymond, ne va pas exister au ciel, mais le fruit de l'Église, la vie comblée, va rester. Et l'Église elle-même va rester dans le sens que vous êtes l'Église, nous sommes l'Église. C'est nous qui sommes éternels. Pas l'institution, pas le nom, pas les bâtiments, pas les choses qu'on utilise pour faire la volonté de Dieu. Mais quand même, qu'est-ce que je veux communiquer ce matin? Et ce qu'il faut saisir, c'est que Dieu nous appelle à faire quelque chose, pas de faire un nom pour nous-mêmes. C'est pas important que tout le monde sur la planète Terre connaisse le nom de la vie comblée. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a seulement un nom qui a été donné aux hommes par lequel on doit être sauvé, et ça, c'est pas le nom de la vie comblée, c'est pas le nom de l'Église baptiste de la foi, c'est pas le nom de l'Église catholique, c'est le nom de Jésus. Mais pour élever le nom de Jésus, Dieu a donné les églises locales, et c'est à travers les églises locales que Dieu va élever son nom. Amen. Et ici, on a un verset qui est un verset clé pour nous. Or, à celui qui peut faire, c'est qui peut faire? C'est Dieu. Amen. À celui qui peut faire par la puissance, tout le monde dit par la puissance, qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans les églises et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, pour moi, ça c'est le côté positif de Genèse 11. Ça c'est pas juste l'équivalent, mais c'est encore supérieur. En Genèse 11, on a vu Dieu dire, c'est Dieu qui l'a dit. Maintenant, parce qu'ils sont un, parce qu'ils parlent le même langage, parce qu'ils ont entrepris cette chose, maintenant, rien pour les empêcher de faire tout ce qu'ils ont projeté. Dieu a dit ça. Amen. Un peuple avec une vision commune n'est pas arrêtable à moins d'avoir une intervention. Et des fois, une intervention divine comme la confusion de la langue. Amen. Mais ici, on voit, imaginez, si Dieu a donné aux hommes, et même ces hommes qui sont pécheurs n'ont pas perdu cette capacité, si les hommes sont capables de faire du ski dans le désert, si les hommes sont capables de voler, si les hommes sont capables de se parler, ce matin, en préparant en quelques diapos sur mon ordinateur, tout d'un coup, plink, j'avais quelque chose arrivé sur mon écran. C'était « Salut, est-ce que vous êtes là? » C'est mon ami, Pasteur John Madin de la France. Bon, en communication. Si j'aurais voulu, j'aurais pu cliquer sur un bouton, voir son visage, et on aurait pu se voir. On n'est même pas connecté, branché nulle part, c'est sans fil. Incroyable, n'est-ce pas? Et ça, c'est notre vie de tous les jours. Si les hommes qui sont même pas connectés avec Dieu peuvent accomplir de telles choses, qu'est-ce que les hommes qui sont connectés avec Dieu peuvent faire? Pensez-vous que Dieu est capable de se servir de nous pour bâtir une église? Quand je parle d'une église, je parle pas de bâtiment, je parle des gens, de bâtir une église qui va faire un impact sur la ville de Drummondville, la province du Québec, la francophonie et au-delà? Pensez-vous qu'on pourrait avoir une église qui est tellement remplie de feu et remplie de vie et remplie d'amour que les gens vont vouloir venir par des centaines et même des milliers pour recevoir la vie éternelle et pour avoir leur corps guéri et pour avoir une espérance dans un monde désespéré? Croyez-vous que Dieu est capable de faire ça? Amen! Maintenant, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc, il y a plusieurs points que je veux souligner. Premier point, dans ce verset, c'est que c'est la puissance de Dieu qui accomplira son œuvre. On a déjà vu ce que la puissance d'un homme peut accomplir. On peut faire du ski dans le désert. Mais maintenant, si on ajoute à cette capacité naturelle la capacité surnaturelle, j'aime beaucoup ce que Pasteur Hagin a toujours dit. Il a dit, le naturel combiné avec le surnaturel va faire une force explosive pour Dieu. Tu mets le naturel avec le surnaturel, tu as une force explosive pour Dieu. Donc, c'est pas tout Dieu et c'est pas tout nous, c'est nous et Dieu, nous travaillons ensemble. Mais c'est par la puissance de Dieu qui accomplira son œuvre. Zacharie 4, 6 dit, c'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit de l'Éternel des armées. C'est le Saint-Esprit qui va faire l'œuvre. Et moi, voici qu'est-ce que j'aime. Je vois vraiment un parallèle entre Tour de Babel. Et qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui? Il veut faire le contraire. C'est le contraste. Dieu avait besoin de confondre le langage des hommes ici à la tour de Babel, en Genèse 11. Mais savez-vous, en Actes chapitre 1, Dieu a fait le contraire. En Actes chapitre, il a dit en Actes 1, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc je vais mettre sur vous ma puissance pour que vous puissiez témoigner et élever mon nom et faire avancer mon œuvre sur la terre. Et en Actes chapitre 2, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, et tout d'un coup, il y avait un bruit comme un vent impétueux qui a rempli toute la place, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, comme le Saint-Esprit leur donnait à s'exprimer. Donc, on pourrait dire, oh, mais est-ce que c'est une confusion de langue? Non, au contraire, Dieu donne la capacité à ces 120 personnes de s'exprimer dans les langues différentes. Et toutes les personnes de passage à Jérusalem, qui venaient de tous les pays de loin, ils ont entendu ces personnes s'exprimer, parler et déclarer le nom de Dieu, prophétiser et glorifier Dieu dans leur propre langue. C'est comme le contraire de Tour de Babel, n'est-ce pas? Et c'est ça que je vois. Dieu veut que son peuple prenne leur place, que nous ayons cette vision, la rêve qu'il vient de Dieu et qu'on soit capable de la réaliser. Donc, ça, c'est la première chose. C'est la puissance de Dieu qui accomplira son œuvre. Deuxième chose, c'est qu'elle agit en nous collectivement. La puissance de Dieu agit en nous. On a dit, or, maintenant, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en... Avez-vous remarqué que Éphésiens 3 ne dit pas « Maintenant, celui qui peut faire par la puissance qui agit dans le pasteur. » Avez-vous remarqué ça? Est-ce que la puissance de Dieu va agir dans le pasteur? J'espère que oui. Mais si la puissance agit seulement dans le pasteur, on ne va pas aller loin. Vous êtes d'accord? Maintenant, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Tout le monde dit, la puissance agit en nous. Imagine, hein, si dans une église, le pasteur est comme le tête et nous avons un corps, qu'est-ce qu'une tête peut faire sans le corps? Ou si vous êtes un membre de l'église, peut-être vous êtes en doigt index dans la main droite du corps de cette église locale. Et si on détache le doigt et on laisse le doigt sur une table ou à la maison, qu'est-ce qu'un doigt peut faire sans être attaché au corps? Peut-être tu es le bicep dans le corps de Christ. Peut-être tu t'entraînes. Peut-être tu es fort, tu es bâti, tu es un muscle gros de même, hein? Monsieur Univers. Mais qu'est-ce qu'un bicep peut faire si le bicep est séparé d'avec tous les autres membres? Hein? Est-ce qu'un bicep a déjà tout seul fait un exploit? Jamais. Le bicep doit être attaché au bras, qui doit être attaché à la main, qui doit être attaché à tout le reste du corps pour pouvoir fonctionner. Amen? Et la puissance de Dieu agit en nous, pas juste en toi, pas juste en moi, mais en nous. Et si on veut voir davantage de puissance, on a besoin d'être davantage ensemble. Amen? Et de réaliser que vous avez quelque chose à faire, j'ai quelque chose à faire, et ensemble, la puissance de Dieu va agir. En Thessaloniciens 2, 13 dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Qui agit en vous. C'est au pluriel, n'est-ce pas? La parole agit, tout le monde dit, la parole agit en nous. Mais est-ce que c'est automatique, l'action de la parole? Non. La parole agit en vous qui croyez. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas, la parole ne fonctionne pas. Si vous êtes dans la foi, si vous ne croyez pas, la puissance ne coule pas. Il y a du courant dans ces murs, mais il faut que je me branche dans le mur pour que le courant puisse vraiment faire son œuvre, n'est-ce pas? La puissance de Dieu est disponible pour nous. La puissance de Dieu, laisse-moi vous dire une chose, regardez-moi droit dans les yeux. La puissance de Dieu est disponible pour que nous puissions bâtir une grosse église qui va faire un grand impact, qui va amener le message du salut à des milliers de personnes, pas juste à Drummondville, mais ailleurs dans la province, et même les 52 pays de la francophonie peuvent être touchés et changés parce que la puissance de Dieu agit en nous. Mais si vous ne le croyez pas, elle ne va pas fonctionner. Si vous dites, ah oui, pasteur, c'est juste un rêve. Oui, c'est un rêve, mais c'est un rêve qui vient de Dieu. Joseph avait un rêve, n'est-ce pas? Dieu donne des rêves, Dieu donne des visions. Et ce n'est pas ma vision, il y a d'autres personnes qui ont eu cette vision même avant moi. Même pour Drummondville, il y a des personnes, des prophètes qui ont prophétisé sur cette ville. Que cette ville va être une lumière dans cette province. Que le feu de Dieu va se répandre de cette ville, à partir du centre du Québec, que ce feu va se répandre dans les quatre coins de la province et même ailleurs. Amen? C'est pas mon idée, c'est pas ma vision, c'est sa vision. Mais nous, collectivement, nous avons besoin de croire. Est-ce qu'il y a des croyances ce matin? Alléluia. Alléluia. On va continuer. Donc, c'est la puissance de Dieu qui accomplira l'œuvre. Agit en nous collectivement, puis elle produira des résultats au-delà de nos attentes. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? J'aime beaucoup. Dieu est un Dieu de trop, vous savez. J'aime juste psaume 23. Combien de personnes peuvent citer le 23e psaume, mais sans vraiment s'en rendre compte? Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe à un petit peu de presque rien au fond. Est-ce que c'est ça? Ma coupe n'est pas vide, la coupe n'est pas sèche, mais c'est presque vide. Non, ma coupe déborde. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Il veut que dans votre vie, que vous débordez de joie, que vous débordez de sa paix, que vous débordez de son onction, et que collectivement, que nous débordons de sa puissance. Amen. Et il va faire au-delà de ce qu'on pourrait jamais imaginer. on pense bien trop petit. Alors, nous pensons bien trop petit. Nous entendons, on voit une église comme on a vu à Syracuse, 3000 membres, on dit, wow, c'est quelque chose, et c'est quelque chose. Mais pensons aussi que le jour de Pentecôte, le Seigneur a ajouté 3000 âmes dans une seule journée. Pensez aussi que encore aujourd'hui, il y a des églises qui sont beaucoup plus grandes que ça. Hein? À Éphèse, ils pensent qu'ils avaient 60 000 membres dans l'église d'Éphèse. Et ça, c'est même pas la plus grosse église au monde. En Argentine, il y a des églises 150 000 facilement. Je sais, en Corée, vous savez, hein? La plus grande église au monde, il y a proche de 1 million, si pas plus maintenant. Donc, on pense bien trop petit, on pense, et encore, c'est pas pour faire un nom pour nous, c'est pour faire avancer le royaume de Dieu. Et ma prière, c'est que toutes les églises dans cette ville et dans cette province puissent grandir et la puissance de Dieu va agir en nous. On peut prendre le même principe. C'est pas juste en moi, mais c'est en nous. Dans ma famille, c'est moi et ma femme. La puissance de Dieu va agir en nous, avec nos enfants. Puis on vient ensemble avec vous dans cette église locale, et la puissance de Dieu agit en nous, collectivement, dans cette église. Mais encore plus loin, on peut penser à toutes les autres assemblées dans cette ville, et la puissance de Dieu agit en nous, collectivement, avec toutes les autres assemblées, n'est-ce pas? On est un, une seule foi, un seul baptême, un seul Seigneur, et c'est pourquoi la puissance de Dieu peut couler sans limite. Amen. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Quels sont les principes que nous avons besoin de mettre en pratique pour pouvoir réaliser nos rêves? Première chose, je vais juste vous donner 4 choses pratiques et on va terminer. Première chose à faire, c'est de conserver l'unité de l'esprit. Savez-vous quoi? Ce n'est pas pour rien que la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, il nous donne le commandement, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a écrit cela? Il s'ennuyait une nuit et il ne savait pas quoi faire. Il regardait sur son parchemin, il y avait des blancs, des espaces. On dit, oh, je vais juste inventer quelque chose. Non, il s'était poussé par l'Esprit Saint. Il a écrit cela. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit. Pourquoi? Parce que la tendance naturelle, c'est de ne pas avoir de l'unité. C'est d'avoir la division. Regardez-moi. Dieu veut que nous soyons un avec lui et avec les uns avec les autres aussi. Et c'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Si nous voulons voir la puissance de Dieu agir en nous, il faut qu'on reste ensemble, ensemble. Comment est-ce qu'on peut le faire? Il y a des instructions assez précises ici dans ce verset, 1 Corinthiens chapitre 1. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous en même langage. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire pour conserver l'unité. On doit tenir une même langage. C'est-à-dire qu'on doit tous dire la même chose, pas de la même façon. On est unique, on a des personnalités différentes, pardon. Mais on est quand même appelé à dire les mêmes choses, être un, être sur la même piste. On a une même vision, une seule vision. Deux visions égale division. Mais si on est ensemble, ensemble, et on dit la même chose, on va voir la puissance de Dieu agir en nous pour réaliser nos rêves. Amen. Donc, tenir tous le même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Dans notre mariage, dans notre famille, dans notre église, et on veut conserver l'unité d'esprit. Deuxième chose, attendez-vous à l'impossible. Attendez-vous à l'impossible. J'ai quelque chose à dire. Dieu aime demander aux hommes de faire des choses qui semblent être impossibles. Et sa spécialité, c'est de prendre les choses folles de ce monde et de confondre la sagesse des hommes. C'est sa spécialité. Donc, si vous avez le sentiment de ne pas être grand-chose, de ne pas avoir beaucoup de capacités, de ne pas être vraiment une personne... Si vous ne croyez pas être le meilleur candidat pour faire des exploits dans le royaume de Dieu, vous êtes probablement la personne. Parce que si les personnes qui pensent, « Oh oui, Seigneur, choisis-moi, parce que je suis capable, parce que j'ai l'éducation, j'ai tous les aspects dont tu cherches, Seigneur, voici mon CV. » Probablement, le Saint-Père va dire, « Prochaine, mais Seigneur, je ne sais vraiment pas comment faire ou quoi faire. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime de tout mon cœur et je suis reconnaissant parce que tu m'as sauvé. J'étais rien, mais tu m'as cherché dans ma misère, dans mon trouble et dans mes problèmes. Tu m'as sauvé. Tu m'as fait sortir de toute cette misère. Tu as placé mes pieds sur le roc. Et Seigneur, je suis tellement reconnaissant d'être sauvé. Seigneur, s'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, me voici. Envoie-moi. » OK, embauché. Ça, c'est l'attitude que le Seigneur cherche. Pas les gens qui sont toujours doués et capables dans le naturel, mais ils cherchent des personnes qui sont disponibles. Amen. Qui sont prêts à dire oui. Attendez-vous à l'impossible. Plusieurs versets que j'ai mis dans vos notes. Marc 9, 23, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » On a vu même dans le naturel qu'un homme a cru que c'est possible de faire du ski alpin dans le désert quand il fait 40 degrés dehors. 40 degrés! On va faire du ski alpin. Et pas juste une piste. Il y en a. Et des sculptures de glace. Vous devriez aller voir. Faire Google Search de Dubaï et de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce bâtiment. C'est incroyable! Tout est possible à celui qui croit. Il y avait un homme qui a cru qu'on peut faire du ski dans le désert et ils font du ski dans le désert. Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire de nous une grande église victorieuse qui va donner naissance à d'autres églises dans la province et qui va former les ouvriers pour la francophonie et qui va distribuer la parole de Dieu dans la francophonie et que, à la fin de notre vie, on va pouvoir amener des milliers de personnes au ciel avec nous? Tout est possible si vous le croyez. Alléluia! Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça, c'est une bonne parole, n'est-ce pas? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, est-ce que vous avez de la foi, même si c'est comme le grain de la sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait quoi? Impossible. Alléluia! Alléluia! Donc, conservez l'unité de l'esprit. Attendez-vous à l'impossible. Dieu va faire des miracles. Il va ouvrir les yeux qui sont aveuglés. Il va faire marcher les boiteux. Il va faire grandir l'église. Il va restaurer les mariages. Il va faire les choses qu'il a promis de faire dans la parole de Dieu. Amen! Et regardons, troisième chose aujourd'hui. Osez demander et penser. Osez demander et penser. On a vu Éphésiens 3. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà. Tout le monde dit infiniment au-delà. Attendez-vous à l'impossible. Infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou penser. Quelques traductions disent imaginer. Si vous pouvez l'imaginer. Quelqu'un avait une image des îles artificielles dans l'océan, dans la forme d'une carte mondiale, et il a réalisé sa vision. Quelqu'un avait une vision d'une tour, la plus grande tour au monde, et maintenant, ça existe. Quelqu'un avait une vision de faire du ski dans le désert, et ils font du ski dans le désert aujourd'hui. Mais là, on parle des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Nous sommes appelés à faire ce qu'il nous demande à faire, à celui qui peut faire infiniment, au-delà de tout ce qu'on peut demander ou imaginer. Donc, on voit deux éléments. On a besoin de demander et penser. Comment on dit? Demander et penser. Alléluia. Première chose, on va regarder le côté penser. Qu'est-ce qu'on doit penser? On doit penser selon la parole. Ésaïe 55, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Je vais arrêter là. Il y a beaucoup de personnes, je vois ça, il y a des chrétiens qui donnent l'impression qu'ils ont lu ce verset, que l'homme d'iniquité ou l'homme du péché abandonne ses pensées. Il y a beaucoup de chrétiens qui donnent l'impression d'avoir abandonné leurs pensées, hein? Ils pensent plus à rien. La Bible n'est pas en train de dire que si vous êtes chrétien, il faut mettre un X sur votre cerveau et jamais plus vous en servir. On pense et on n'a pas peur de penser, mais on pense la bonne chose. On abandonne nos pensées pour adopter les pensées de Dieu, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de nos voix, vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Est-ce que vous êtes d'accord que les pensées de Dieu sont plus élevées que les pensées humaines? Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Soulignez cela, ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli quoi? Soulignez cela, accompli mes desseins. Comment est-ce que Dieu accomplit ses desseins? Je vous pose une question. Comment est-ce que Dieu accomplit ses desseins? Pas sa parole, mais il le fait maintenant à celui, hein? Mais Éphésiens 3. Revenez dans vos notes, Éphésiens 3 ici, première page. Or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Comment est-ce que Dieu accomplit ses desseins? Il accomplit ses desseins à travers nous qui croyons. Dieu ne fait pas ses œuvres indépendamment de nous. Même quand il a voulu le dessein du salut, il voulait sauver la race humaine par le sang de son Fils Jésus. Savez-vous qu'il a utilisé les hommes pour effectuer et réaliser son plan et son projet? Même on recule dans l'Ancien Testament. Toutes ces âmes ont préparé le chemin pour la naissance de Jésus. Abraham, quand Abraham crut à Dieu et il partit pour un pays qu'il ne connaissait pas, quand il a offert son fils en sacrifice, quand il a fait toutes les choses qu'il a fait, c'était une préparation pour l'accomplissement et la réalisation du rêve de Dieu, le dessein de Dieu allait s'accomplir à travers les hommes et les femmes de la foi. Tout ce que Dieu fait, tous ses desseins s'accomplissent à travers les hommes et les femmes de la foi. Sa puissance agit en nous qui croyons. Et si nous croyons collectivement, Dieu peut faire encore plus grand. C'est bon? Ce que je dis est vraiment bon. Ça vient pas de moi, c'est vraiment de Dieu. On a besoin de saisir cela parce que, encore, on doit abandonner nos pensées, nos petites pensées. Je suis né pour un petit pain. Il dit, non, Seigneur, tu m'appelles à faire de grandes choses. Ça va prendre une grande provision. Amen. Et ensemble, on peut mettre nos ressources ensemble et on peut accomplir de grandes choses. Regardons. On continue. Donc, pensez selon la parole, mais puis demandez selon la parole. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Voilà la chose. Si, tout le monde dit si. Si vous demeurez à moi et si mes paroles demeurent en vous. On ne parle pas de faire une rêve de pizza. J'ai mangé trop de Stratos et puis j'ai eu une vision. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire. C'est pas ça. Je parle pas de faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui. Là, on parle de faire la volonté de Dieu et d'accomplir le dessein de Dieu et le rêve que Dieu a. C'est la vision de Dieu pour cette Église dont je parle. Et pour cela, il faut être dans la parole, penser selon la parole et demander selon la parole. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Et finalement, numéro 4, qu'est-ce qu'on doit faire? On a dit, conserver l'unité de l'esprit. On doit s'attendre à l'impossible. On doit oser demander et penser grand. Et puis, tout simplement, faites votre part. Faites votre part. Éphésiens chapitre 4, c'est dans vos notes. Je ne m'en souviens plus quelle version j'ai mis là-dedans, mais je sais que dans le second, on se dit, et maintenant comme des dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous, tout le monde dit, chacun de vous. Regarde quelqu'un à côté et dit, ça c'est vous. C'est toi. Et puis regarde quelqu'un d'autre et dit, c'est aussi moi. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et puis, ça continue. Que chacun de vous utilise pour le bien des autres le don particulier qu'il a reçu de Dieu. Que celui qui a le don de la parole transmette les paroles de Dieu. Que celui qui a le don de servir l'utilise avec la force que Dieu lui accorde. Il faut qu'en toute chose, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour toujours. Ça, c'est la différence entre nous et ceux qui étaient en train de construire la tour de Babel. Nous allons faire un nom pour nous-mêmes, mais nous allons faire un nom pour Jésus. Encore, il faut que, en toute chose, la gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Combien de vous, vous voulez voir le rêve de Dieu réalisé à Drummondville? Savez-vous que vous avez quelque chose à faire? Il y a des dons. On parle souvent dans l'Église, je ne l'ai pas dit dernièrement, mais il y en a qui peuvent parler des 4 T, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un s'en souvient des 4 T? Notre temps, notre trésor, nos talents et notre temple, qui est notre corps physique. Vous avez, chacun de vous, vous avez un temple, le temple du Saint-Esprit. Chacun de vous, sans exception, vous avez un talent que Dieu a placé en vous. Chacun de vous, vous avez un certain trésor, même au niveau des finances. Et vous avez chacun 24 heures par jour. Votre temps. Votre temps, votre trésor, vos talents et votre temple. Si tout le monde fait sa part et on met toutes ces ressources ensemble, on peut faire beaucoup plus que faire du ski dans le désert. Amen. Ce ne serait pas une chose compliquée de construire une église comme ils ont construit à Syracuse. Et quand je parle de construire, oui, il y a des bâtiments, mais vous devrez rencontrer les gens qui sont pleins d'amour, qui sont pleins de foi, qui sont pleins du Saint-Esprit et qui ont une passion pour les gens. Ce que j'aime de l'Église de Syracuse aussi, c'est qu'ils ont cette belle place, mais ils font des choses. Et non, ils vont dans les quartiers pauvres de leur ville et ils investissent des millions de dollars pour construire, exemple, la bibliothèque municipale dans un quartier pauvre. Ils ont tout reconstruit ça. D'où vient cet argent? Ça vient pas du gouvernement, ça vient des membres. Et c'est pas, et des gens, oh, ça doit être tous les riches qui, non. Vous devrez voir, c'est un mix des personnes. Il y a des personnes qui viennent des quartiers pauvres, qui fréquentent leur église. Mais tout le monde fait sa part. Et quand on fait sa part, les choses vont bien. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Moi, je sais que le Seigneur a mis dans notre cœur une vision de faire un impact dans cette ville, dans cette province, dans la francophonie. Nous sommes en train de l'avoir réalisé. Mais je sais que dans mon esprit, c'est le temps de se lever debout. Et on va le faire, on va se lever debout. Et on va se lever, on va bâtir. Qu'est-ce que le fun? Je sais qu'il y a des personnes ici qui sont venues avec nous dans ce voyage. Ils sont revenus avec une vision, n'est-ce pas, de voir cette église aller de l'avant. Combien de vous voulez voir l'église aller de l'avant ici à Drummondville? Amen. On va conserver l'unité de l'esprit. On va s'attendre à l'impossible, on va oser demander et penser grande, et on va faire notre part. Et le Seigneur va faire sa part. Alléluia. Merci Seigneur. On va prier. Et on va remercier le Seigneur pour cela. Alléluia. Merci Père Céleste. Combien de vous êtes prêts? On va lever nos mains vers le Seigneur. On va dire ceci. Merci Seigneur. Nous voici. Envoie-nous. C'est ta puissance qui va agir en nous qui croyons. Nous prenons une décision de conserver l'unité de l'esprit, de protéger l'unité de cette Église. Seigneur, on s'attend à l'impossible. Nous allons oser demander et penser selon ta parole et nous allons faire notre part. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Et juste avec tous les cœurs sensibles ce matin, une chose qu'on fait ici à tous les dimanches matins. On ne laisse pas partir une personne sans avoir donné une occasion de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Peut-être vous êtes ici, vous dites, hey, pasteur, pour être honnête, je ne suis même pas sûr que ma vie appartienne à Jésus. La Bible est claire que, en fait, c'est Jésus lui-même qui a dit, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est pas vraiment compliqué. C'est que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a mis en eux le souffle de vie. Ils étaient en communion. Ils avaient un contact intime avec Dieu. Ils étaient un avec le Père Céleste. Mais quand ils ont péché, ils ont été séparés d'avec Dieu. En fait, ça c'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. La mort, c'est la séparation. Et le péché a séparé l'humanité avec Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que comme la mort est entrée par le péché d'un seul homme, le premier Adam, il y a un autre homme qui est venu, que la Bible appelle le deuxième Adam, ou le dernier Adam, c'est Jésus. Jésus, il est venu sur la terre, il y avait une différence, c'est que son sang n'était pas un sang naturel, parce que son père n'était pas un père terrestre. Il est né d'une vierge. Et le sang qui coulait dans les veines de Jésus, c'était un sang précieux. Jésus a vécu une trentaine d'années sans avoir jamais péché. Il n'a jamais une seule fois péché. Il était parfait. Dieu, qui s'est fait chair, marchait sur la terre. Il était tenté en toutes choses comme vous et comme moi, mais il n'a jamais cédé à la tentation. Et un jour, il a pris une décision. En fait, même avant de quitter le ciel, la décision a déjà été prise dans l'éternité passée. De venir sur la terre et de donner sa vie en rançon. De donner sa vie comme un sacrifice, comme un substitut, mourir à notre place. Donc cet homme parfait qui est à la fois Dieu, 100% Dieu et 100% homme, cet homme-Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il fut battu de verge. Les soldats ont arraché sa barbe. Ils l'ont battu cruellement, torturé. Et un jour, finalement, ils l'ont cloué à la croix. Son sang a coulé. Et Jésus-Christ est mort. Et pendant ce temps, il était séparé d'avec le Père Céleste. Il a crié à la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et le Père ne pouvait plus regarder le Fils, parce que celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché. Il a pris sur lui-même nos péchés, vos péchés, toutes les choses que vous avez faites qui ne sont pas correctes, étaient sur lui à ce moment-là. Et le Père ne pouvait pas regarder. Jésus a subi la mort pour chacun de nous. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il fut enterré et 3 jours après, ressuscité. Et maintenant, il est revenu à la vie. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père. Et la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est quoi un Seigneur? C'est un Maître. Et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Et tu peux passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Tu peux être encore de nouveau en contact avec Dieu, en communion. Et son esprit va entrer dans ton cœur et faire de toi une nouvelle création. Ça, c'est la nouvelle naissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore fait cela? Je vais juste demander. Je vais compter à 3, je vais taper ma main. Si vous êtes là et vous avez besoin aujourd'hui de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur, juste levez la main et on va prier pour vous. Qui ici a besoin de recevoir Jésus? 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Levez la main. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être que tout le monde ici l'a déjà fait. C'est Dieu seul qui le sait. Mais Père, merci. Je prie pour chaque homme et femme ici présent qu'on puisse saisir la réalité de cette nouvelle naissance. Que nous ne sommes pas juste les hommes naturels, mais les hommes et les femmes surnaturels. Et tout ce que nous projetons faire, rien ne peut nous empêcher de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous aime. On va se